Avant de commencer, tout à l'heure, on pourra faire des échanges avec les intervenants qui sont autour de ces tables. Il faudra bien parler dans le micro, parce que même si on est dans une petite salle, c'est enregistré pour être ensuite rediffusé. Donc le micro, vous pourrez le prendre et vous le partager. On va parler de quelque chose que j'ai découvert. En fait, je m'appelle Nicolas Calmèche, je suis journaliste radio dans une radio associative à Compiègne. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais la musique amplifiée, la musique actuelle, les concerts, les productions de CD, de vinyle, etc. Mais je ne m'intéressais pas trop à la synchro ou au jeune public. Le jeune public un petit peu, parce qu'on a une émission qui traite le jeune public, mais c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à vous, aujourd'hui, grâce à cette conférence. On va faire un petit tour des intervenants qui sont avec nous. On va commencer par Jocelyn.
Bonjour.
Jocelyn, tu es musicien. On t'a découvert notamment avec The Name, enfin le public, on va dire mainstream, t'a découvert avec The Name. Aujourd'hui, t'as un projet qui s'appelle Vers la Tour. Et t'as fait de la synchro pour une série que beaucoup d'entre vous doivent connaître. C'est la série de Canal+, Bref. Donc voilà, je pense que c'est un peu là le sommet de la connaissance du public, c'est ça, ce projet Bref ?
Oui, je pense que c'est finalement la synchro qui a le plus de succès, c'est sûr, ouais, qu'on a fait, ouais, je pense.
Avec nous également, Maï-Chan, vous pouvez prendre un micro ? Alors, je crois qu'il faut juste l'allumer. Voilà, c'est ça.
Ah, ah. Bonjour.
Donc, vous, c'est sur un projet jeune public.
Oui.
On va en parler juste après. On va continuer le tour des présentations. Justement, le projet jeune public, c'est assez intéressant parce que là, c'est pas un projet, on pourrait penser, pour des lycéens, des collégiens. C'est beaucoup plus jeune. J'ai vu qu'il y a même des bébés, limite. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être aussi intéressant. Et on a également avec nous Yves Goumer. Gourmeur, pardon, c'est bien ça ?
Gourmeur, mais c'est pas grave.
Pardon,
j'ai l'habitude.
Donc vous êtes compositeur et également vous avez monté une société qui s'appelle General Score, qui est un groupement de compositeurs et vous faites de la synchro pour le cinéma, pour la publicité, pour également les jeux vidéo, si je dis pas de bêtises, c'est ça ?
Alors, on n'a pas encore travaillé pour les jeux vidéo. On aimerait bien, mais on n'a pas encore. Mais je vais avoir une conversation avec toi juste après.
C'est ça, parce que Jocelyn, du coup, a un projet qui est sur le feu actuellement, sur une synchro de jeux vidéo, donc vous pourrez également leur poser des questions. On va commencer avec Jocelyn. Jocelyn, du coup, un peu sur... on va rentrer directement dans le vif du sujet de la synchro. Comment ça s'est déroulé, cette chance de faire une synchro pour Bref ?
Bon, je vais essayer quand même de la faire un courte. Petit peu courte, ouais. Là, c'était du réseau, on va dire, privé, dans le sens où... En fait, donc The Name, c'est un duo, c'est David Monet et moi-même. Et nous étions à la fac d'art lorsque nous avions 20 ans, quelque chose comme ça, et nous avons fait la rencontre d'un ami qui s'appelle Valentin Ferron, qui a fait ses études comme tout le monde et qui a terminé par être monteur. Et en fait, il y a un moment où nous, on lui envoyait toujours du son, parce que il était monteur et c'était notre pote. Et il a bien habillé, en gros, un premier morceau issu de notre premier EP qui s'appelait Kidding. Et il travaillait avec, cette équipe, avec Kian et Bruno Davo Muccio, qui n'habitaient pas encore Paris, hein, qui étaient vraiment de la province, qui avaient, du coup, cette idée d'une série très courte, etc. Et ils ont monté le pilote de... Enfin, il a monté le pilote de la série pour s'amuser autour de la musique Kidding. Et lorsque MyBox Productions, qui était du coup la boîte de production de Bref, a visionné le montage comme ça, et en gros, ils leur ont dit, écoute, la musique, ça nous plaît, c'est chouette, c'est plutôt chouette, allons-y. Donc, ils ont commencé à monter juste un morceau pour le pilote de la série. Alors, faut savoir aussi que toute la série était scénarisée autour d'un groupe normalement qui s'appelle Carbon Kevlar. Et il se trouve que, on va pas rentrer dans les détails, mais ils ont eu un petit problème avec Carbon Kevlar.
Ah, ils ont vraiment existé.
Oui, bien sûr, hein, c'est un vrai groupe, hein, qui, je pense, qu'il tourne peut-être encore aujourd'hui. Et Valentin nous a un petit peu informés et nous, en fait, on a vraiment couru dans la brèche et on a dit, nous, si vous voulez, des morceaux, on peut vous en faire dans l'esprit pas mal. Et ça s'est conclu par quand même 2 ans de collaboration avec eux et on a fait en tout 82 titres pour Bref. Donc, en gros, on a composé, je dirais, 85% de la série.
Du coup, c'est des titres classiques, des 3-4 minutes ou c'est vraiment des titres qui sont uniquement pensés pour une série, pour être utilisée, je ne sais pas, 30 secondes ou 40 secondes ?
Alors, ça dépend. D'ailleurs, c'est là que ça peut être aussi intéressant d'en parler. Nous, avant l'aventure Bref, par exemple, ou moi aussi, en tant que producteur de musique électronique, etc. Avant, faire un morceau, ça nous prenait 8 mois, 1 an, ça nous prenait énormément de temps. Et en gros, il y a eu un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on a proposé vraiment des morceaux qui étaient issus de notre EP, mais finalement, il y en avait peu, il y avait 4 titres. Et après, une fois qu'on a compris un petit peu le schéma de la série, c'est-à-dire des musiques un peu percutantes, assez rapides, un tempo, on va dire qu'on oscillait tout le temps entre 125 et 130, un premier passage que grosse caisse avec la basse, puis grosse caisse, caisse claire. Une fois qu'on avait compris un petit peu le mode opératoire de la série et ce qui leur plaisait, bon bah là, du coup, on pouvait commencer à en faire vraiment plusieurs et à leur proposer des choses. Ça a été assez rare qu'ils refusent quelque chose, d'ailleurs, finalement. Et comme on était quand même assez en connivence avec le monteur, la musique, si, voilà, il collait bien et du coup, ça a bien fonctionné. Et en fait, ce qui est marrant, c'est aussi que nous, ça nous a fait prendre des tics de production qu'on n'avait pas du tout à la base. Quand je disais que ça nous prenait 8 mois ou 1 an pour faire un morceau, bon bah là, il fallait faire un morceau, c'était quasiment du jour au lendemain, quoi. Alors, on s'entend bien par morceau, c'est pas forcément un morceau, c'est plus ce qu'on a tendance à appeler dans la synchro des stings. Donc c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, une bonne basse, une bonne grosse caisse, et puis le drop, et puis merci, bisous, entre guillemets. Donc c'est des morceaux qui durent en moyenne peut-être 1 minute 30, mais qui permettaient à Valentin de monter avec différentes intentions.
Alors vous, avec The Name et puis Vers la Tour, du coup maintenant aujourd'hui le projet Vers la Tour, artiste en développement, artiste en émergence on va dire, vous avez découvert ça comment? Parce que vous n'avez pas d'éditeur. Il n'y a pas d'éditeur pour porter ce projet auprès de la télévision ou du cinéma. Comment on découvre un petit peu cet univers et comment on s'y engouffre ?
Alors, c'est vrai que nous, à l'époque, on n'avait pas du tout d'éditeur, ce qui était en même temps une sacrée chance, finalement, quand on regarde bien avec le recul, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais du coup, on était 100% détenteurs des droits avec David, donc on était vraiment sur du 50-50 sur la série. Après forcément par la suite ça s'est un petit peu construit, on a un peu plus compris comment ça se passait, donc là aujourd'hui on a un éditeur en Angleterre, un éditeur en France, enfin des gens qui nous cherchent un peu des choses, et on a aussi nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un éditeur qui s'appelle District 6 et on lui a demandé de s'occuper uniquement de la gestion éditoriale de ces droits-là. Ça veut dire que sur ces 82 morceaux-là, il n'est pas éditeur, il ne va pas chercher de la synchro pour nous, ou etc. Mais par contre, il va faire attention à ce que les droits soient bien redistribués tout le temps, lorsqu'il y a des rediffusions, etc. etc. Et donc là, c'est le moment de pouvoir dealer avec votre éditeur autre chose que 50%. Ce qu'on peut dealer, en tout cas, c'est revenu un peu moins fort, quoi.
Comment on gère la scène et puis du coup justement l'édition, la composition, est-ce que c'est plus de plaisir d'être sur scène face à un public, de prendre l'énergie du public ou d'être dans un studio en train de composer pour une série qui va être vue par des millions de personnes?
Je crois que c'est deux choses qui sont vraiment complètement différentes, c'est deux énergies qui sont complètement différentes. On ne compose pas de la même manière pour une série ou pour jouer devant un public en festival. J'aurais du mal à te répondre à ça parce que moi j'aime beaucoup l'univers du studio aussi. Enfin, évidemment, quand on fait ce genre de musique, j'ai plein de synthés, plein de boîtes à rythme, plein de trucs et j'adore vraiment tout cet univers-là. Et autant sur scène, comme tout musicien, j'adore être sur scène et m'exprimer. Mais en tout cas, il y a quand même des ponts qui sont intéressants. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais là, j'ai fait récemment la musique pour un jeu vidéo qui va sortir sur Steam, qui s'appelle Takahano Paris. Et là, concrètement, il a complètement inspiré mon prochain album, qui est très dans l'esprit Synthwave. Mais je pense que si je n'étais pas forcément passé par cette commande-là, peut-être que je n'aurais pas fait ça comme ça, ou que je n'aurais pas eu ce déclic-là, en tout cas. Donc il y a quand même toujours un petit peu des ponts... qui se font
entre les deux.
Bien, ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question du coup.
Justement, Yves, vous êtes pianiste à la base.
Oui.
Vous avez fait une espèce de reconversion ou plutôt une bifurcation vers la composition pour le cinéma et la synchro.
En fait, j'ai toujours composé. Alors, moi, je viens du classique et du jazz. Hein. C'est les deux formations que j'ai eues. Et donc dans la musique contemporaine, extrêmement compliquée à écouter parfois, et le jazz. parfois très facile à écouter, mais parfois pas. Donc j'ai travaillé plutôt là-dedans, mais on me demandait, des amis qui travaillaient dans la musique de film, me demandaient de bosser, tiens, est-ce que tu peux pas me faire un arrangement, pourquoi tu raccordes cette jolie mélodie, enfin ce genre de choses. Donc j'étais quand même déjà un petit peu dans le milieu, mais musicien, c'est tourner beaucoup, hein, c'est voyager beaucoup, et ben, j'ai beaucoup voyagé, je suis très content, j'ai beaucoup tourné, et au bout d'un moment, voilà, je me suis marié, j'ai une petite fille, enfin voilà, j'avais envie de voir. Et donc il y a un aspect personnel de ma vie qui a fait que petit à petit, j'ai commencé à composer plus, à arranger plus, et pour finir, on m'a demandé un jour de faire un court métrage, puis deux, puis dix, puis enfin voilà, puis un long, puis voilà. Donc ça s'est fait assez naturellement, mais je continue à jouer, j'ai toujours un projet musique du monde, jazz, où je joue du piano, mais je joue beaucoup, beaucoup moins qu'il y a 10 ans.
Il y a un article pour préparer cette conférence. Je me suis basé sur un article qui a été écrit par Léna Luto du Figaro, qui est daté du 30 juin 2019, qui parle un petit peu de la synchronisation. Et alors, il y a 2-3 chiffres qui seront assez intéressants, notamment en 2018, il y a 80 artistes français qui se sont partagés avec leur éditeur 17 millions d'euros. Donc, c'est les 90 artistes français les plus gros. Mais c'est pas. Non, peut-être vous deux. Et également, on a pu découvrir que, par exemple, un artiste qui est le top numéro 1 sur les ventes digitales, c'est un artiste lillois d'électronique qui a vendu plusieurs milliards de titres de singles grâce à la Chine, et c'est un artiste que je ne connaissais pas du tout. J'ai pas noté son nom, je pourrais vous le donner tout à l'heure, mais voilà, des choses qui sont assez intéressantes puisque c'est quelque chose que j'étais pas du tout au courant. Il y a également des montants, on pourra revenir tout à l'heure sur les montants pour les artistes en émergence, sur des tarifs, notamment sur de la synchro pour de la pub ou pour du film ou de la série. D'ailleurs, Jocelyn, si on t'avait proposé une pub, est-ce que tu aurais accepté directement ? Est-ce que c'est plus facile d'accepter une synchro pour une série qu'une synchro pour une pub ? Bon, je pense par exemple à The Do ou le morceau de The Do. Maintenant, dès qu'on l'entend, on pense au Kai Oxford.
Tu peux répéter la question.
Est-ce que du coup, tu aurais accepté de faire une pub ? Et le fait de mettre ta musique sur une pub, est-ce que la pub, des fois, avale pas les artistes, comme du coup le morceau The Do, ou quand on l'entend aujourd'hui, on entend les Kai Oxford?
Je pense que ça se réfléchit, parce que ça dépend de la pub. Si c'est une synchro pour une pub Pampers, il faut quand même être sûr de son coup, parce que tu n'as pas forcément envie que ton nom d'artiste soit associé à ça, ou alors tu vas trouver un pseudo ou quelque chose. Après, si c'est... par exemple, là, on parle de musique... Moi, je vais vous parler plus de musique électronique, mais par exemple, pour une pub de voiture, etc., là, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que ça s'y prête bien. Donc, tout ça se réfléchit pas mal. Et puis, il y a quand même autre chose qui rentre dans la donne, c'est quand même forcément le vecteur financier, quoi, voir comment ça se deal, à combien, comment, pourquoi... Bon, tout ça, c'est des questions qu'il faut
réfléchir.
Ouais, parce que ça peut être. Enfin, on peut avoir des propositions pour des pubs très locales, hein, pour, je sais pas, Sephora, Amiens, mais aussi pour forcément des gros groupes internationaux. Donc tout ça, ça se.
Et vous, Yves, c'est des choses que des questions que vous vous posez. Sur quoi va être utilisée votre musique ou...
Ah oui, absolument, oui. Oui. D'ailleurs, en général, en tout cas, moi j'essaye que ce que je compose pour quelque chose soit réservé à ce quelque chose. Que au moins le producteur me pose la question s'il a envie d'utiliser ça ailleurs, pour ne pas retrouver de la musique un peu n'importe où. Et puis aussi par respect pour le métier, parce que ça devient un peu facile, quoi. Ils finissent par avoir des kilomètres de musique qu'ils utilisent un peu comme ils veulent, puis c'est très difficile de savoir où ils l'ont utilisé et de récupérer les droits, et puis c'est du boulot en moins pour d'autres compositeurs, donc voilà, c'est un peu, oui, certainement. Après, c'est exactement la même...
même démarche.
Bah oui, il faut vivre aussi, donc si demain on me propose une pub avec du budget, ça va être difficile de dire non. Mais en Belgique, je ne sais pas, je ne connais pas assez le monde de la pub dans la Société Générale Score. On a 2 compositeurs qui ont beaucoup travaillé dans la pub, mais leur nom n'est pas forcément associé. Enfin, je veux dire, moi, avant qu'eux me disent « Ah, tu sais, la pub Jupe, Jupiler, c'est moi qui l'ai faite. Ah ouais, elle est super connue, cette pub. Je ne savais pas que c'était eux. Enfin, et c'est des artistes relativement connus en Belgique. Enfin, voilà.
Vous utilisez des pseudos pour certaines compositions ?
Moi, ça, j'ai pas encore eu besoin de le faire jusqu'ici.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les disques de librairie musicale pour le cinéma, enfin pour la radio ou la télévision des années 60 ou 70, c'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui pour les amateurs de hip-hop qui utilisent des bouts de samples. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, vos morceaux seront très très recherché par les diggers de hip-hop de l'époque.
On pourra aussi parler de l'intelligence artificielle dans 20 ans, 30 ans. Hein.
Là, aujourd'hui, c'est quoi les projets qui sont en cours pour vous ?
Pour moi ? Là, je suis sur des courts-métrages. Un court-métrage Vincent Smith qui a déjà fait deux courts-métrages produits par les Films du Carré à Liège. Un autre court-métrage en France, d'ailleurs, qui est subventionné par la SACEM, Maison du Film de Paris, qui s'appelle Les Hommes Perdus. De... voilà, ça c'est bien. Et un troisième court-métrage de réalité virtuelle qui est Québec et Belga. Donc Item 7, qui est une boîte québécoise, et Belga, qui est une boîte belge.
Voilà. De réalité virtuelle ?
Oui, excellent. Alors je ne sais pas du tout ce qui va me tomber dessus, je sais juste que j'ai signé, c'est tout.
Ah, c'est chouette.
C'est pas encore, j'ai encore rien, je ne sais pas du tout, c'est la première fois que...
Acheter des casques, c'est super bien. La réalité,
j'ai fait un film pour eux, ils m'ont demandé de faire ça. J'ai dit oui, mais je ne sais pas du tout.
Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à l'avenir ? Est-ce que là, il y a le binaural qui va arriver, le son 3D ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler du binaural. En fait, c'est que vous mettez un casque et vous avez une spatialisation.
Oui, bien sûr. On a ça à développer au studio Galaxy en Belgique. Hein.
Notamment pour les jeux vidéo, c'est un peu l'avenir.
Oui, tout à fait. Mais c'est très technique. Donc, il y a aussi... pour l'expérience que j'ai, quand on fait la musique d'un film, il y a 22 personnes qui sont là pour s'occuper du son aussi. Donc voilà, la seule différence, c'est le nombre de stems qu'on va demander. Voilà. Donc les stems, c'est le découpage horizontal de la musique. Donc plutôt que d'envoyer, quand on a fini une musique, en fait, dans le monde du cinéma, on n'envoie pas deux pistes. On envoie pratiquement tous les instruments qu'on a fait séparément, mais déjà mixés, en fait. Tout est déjà mixé, mais... on envoie quand même pratiquement tous les instruments séparés. J'exagère un peu. Hein, mais...
Nous, c'est vrai.
Et donc, de sorte que quand le mixeur son qui va mettre les dialogues, le sound design et la musique ensemble, il va pouvoir éventuellement retirer, hélas, le solo de saxophone qui tombe en plein dans le dialogue et que vous pensiez que c'était bien, mais non. Voilà. Donc, il faut aussi savoir gérer ça quand on est compositeur pour l'image, je pense. C'est que entre ce qu'on produit et ce qui se retrouve à l'écran, il y a encore une différence, hein, une sacrée différence.
Est-ce que vous vous sentez un petit peu dépossédé de votre création ?
Il ne faut pas faire ce métier si on a envie d'être compositeur. Compositeur, voilà. Voilà. Il faut faire ce métier quand on a envie de partager avec les autres. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est que je rencontre des gens incroyables, qui ont des compétences incroyables. C'était génial d'être musicien, mais tu rencontres essentiellement des musiciens. Et c'est génial, mais voilà, là, ça s'ouvre à rencontrer des monteurs de qualité, des gens qui ont... c'est absolument extraordinaire. Quoi. Puis en plus, ils te font comprendre des choses en tant que musicien qui sont très importantes pour toi, dans ton métier, mais que, en tant que musicien, il n'y a qu'un monteur qui peut te dire, mais quand tu commences une violoncelle-là, tu vois quand même bien que ça ne marche pas parce que... Tu vois, c'est, voilà.
Aujourd'hui, est-ce qu'avec General Score, vous conseillez des jeunes artistes ? Est-ce que certains jeunes artistes en émergence viennent vous voir en vous disant aujourd'hui, notre projet décolle pas en musique, sur la scène. Est-ce qu'on voudrait faire un peu d'argent pour pouvoir sortir un album ? Est-ce que vous les conseillez ? Est-ce que vous leur donnez est-ce que vous les recevez dans votre entreprise ?
La société est trop jeune pour déjà faire ça. On a des demandes. Est-ce qu'on peut venir chez vous ? Mais encore une fois, c'est trop tôt. Hein. On est 7 compositeurs. On apprend pour le moment à travailler ensemble. Et puis, il y a énormément de monde. Bon, moi, j'enseigne aussi dans une école à Mons qui s'appelle Rocari. Et il y a une section musique appliquée. Il y a 25 élèves. Donc, chaque année, il y en a 10 qui sortent. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde sur le marché. À Aubagne, il y avait 93 compositeurs en émergence cette année. 93 à Aubagne. Donc, c'est un festival. Dans le sud, voilà. En Belgique, quand on dit Aubagne, on se dit, ah oui, Marcel Pagnol, mais sinon, c'est dans le sud. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est le black belge du jour, merci.
Et pour toi, Jocelyn, est-ce que ça a ouvert du coup des portes, là, la synchro pour le jeu vidéo ? Est-ce que ça serait fait, même s'il n'y avait pas eu Bref ?
Oui, parce que là, pour le coup, c'est complètement indépendant de Bref. C'est parce que j'étais en résidence l'an dernier au Québec, avec mon projet Vers la Tour, pendant un mois, avec des jeunes d'une université qui s'appelle LUCAT, là-bas. Donc, c'est vraiment des étudiants qui sont autour des arts numériques, etc. Et puis, à l'issue de cette résidence-là, il y a quelques jeunes qui m'ont recontacté pour finalement leur projet de fin, quoi, d'études, qui était ce jeu vidéo. Donc, ça s'est fait comme ça.
Il y a 60% des projets qui ont été utilisés en France qui sont soit de l'électropop, souvent avec un chant en anglais. C'est plus facile de faire de l'électro et chant en anglais pour qu'il y ait de la synchro. C'est quoi, la mondialisation ?
Alors, tu parles en France ?
Ouais,
ou
pour la France. Ouais.
Alors, en France, je ne pense pas que l'électropop chanté en anglais, ça fonctionne.
Bah là, sur les synchros, les chiffres, c'est 60% des commandes, c'est électropop.
Chanté en anglais.
En chanté en anglais.
Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une différence entre la synchro et la radio. Mais oui, bah, je pense que c'est finalement des histoires de tendance. Bon, là, je crois qu'en musique électronique, depuis quelques années, on ne va pas tarder à atteindre le pic si ce n'est pas déjà fait. Et, donc oui, ça doit être tellement tendance d'avoir une musique un peu électro et chantée en anglais. Ouais, forcément, ça, c'est l'offre et la demande. Hein,
oui, on pense à Offenbach, à Petit Biscuit, tous ces artistes-là.
Forcément, ouais.
Vous, sur la musique jazz et la musique classique, comment ça se déroule ? C'est quoi le marché par rapport à la synchro pour les séries, les télés ? C'est facile de vendre du coup une musique classique ? Ils ne vont pas utiliser une musique qui est libre de droit, par exemple, qui est tombée dans le domaine public ?
Alors, je comprends, mais je ne comprends pas les questions. Mais je comprends les questions. Donc, on ne compose pas une musique classique. On compose ce que le réalisateur veut qu'on compose. Donc, moi, je suis un peu moins... Enfin, moi, je ne suis pas dans l'électro comme toi, mais je touche un peu à tout. Parce que il faut être le plus éclectique possible quand on veut faire du film. Mais donc on ne compose pas un morceau de jazz qu'on essaye de placer dans un film. Ça, on peut faire des démos si on veut, bien sûr. Hein, y a des gens qui font. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Je vois deux cas de figure. Le cas de figure où quelqu'un a une réelle identité, donc un groupe ou un artiste qui a une réelle identité avec un son et on vient chercher ce son-là, et donc cet artiste fait ce qu'il fait très bien, ou on teste des compositeurs qui ont des panels de compétences et qui essayent de se vendre en fonction des desiderata du réalisateur. Donc le dernier film que j'ai fait, c'était In the Box. C'était un dessin animé danois. On m'a dit, en début de film, on m'a dit, on adore John Williams, hein, on veut que tu fasses du John Williams, In the Box. D'accord. Donc sans orchestre, en programmation, etc. Bon. Alors, heureusement, ils ont un petit peu descendu leurs exigences et surtout, ils se sont rendus compte que ce n'était pas exactement ça. Ça avait besoin d'un mec quand même. Donc c'était très orchestral, mais juste avec l'ordinateur. Le film précédent que j'avais fait, c'était orchestre à cordes, 25 musiciens, plus des solistes, etc. Et là, c'était plus un mix entre quelque chose qui est ce que tu appelles la musique classique et de la musique contemporaine, mais orchestrée, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est en fonction du... Voilà, le réalisateur m'a demandé de faire des démos en me disant « j'aime bien tel ou tel ou tel type de musique ». Musique orchestrale, et j'ai fait des démos en fonction du scénario, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Quand tu es un artiste émergent, si tu es Alexandre Desplat, on ne te demande plus de faire des démos.
On va parler un peu argent, justement, puisque j'avais récupéré les chiffres, notamment toujours dans l'article de Léna Luteau, sur une pub mondiale. Alors, on en discute tout à l'heure, apparemment les chiffres peuvent être un peu différents. Sur une pub mondiale, c'est, pour un artiste en émergence, c'est 80 000 $ pour un placement sur une pub. Sur une série, c'est 5 000 $ et pour un film, c'est 3 000 $. Tout à l'heure, vous me disiez que c'était...
C'est un peu violent. Enfin, moi, les pubs, je connais pas bien, encore une fois. Mais un film, on sera plutôt vers 25 000. Parce que, alors, en tout cas, en Europe, parce que les gens sont quand même encore honnêtes. Mais après, c'est sûr que si c'est une toute petite production et que ça vaut la peine de le faire et que, justement, j'ai rien à faire à ce moment-là et qu'on me dit, oui... Mais voilà, donc en Europe, c'est plutôt, pour un film, c'est quand même plutôt 25 000. Une série, on est plutôt entre 15 et 20. Voilà. En Belgique, en tout cas, hein, mais on a beaucoup de coproductions en Belgique. Donc je parle vraiment des films étrangers qui arrivent, ou des séries étrangères qui arrivent en Belgique, parce qu'il y a une coproduction. Par exemple, au moment où on fait une série suisse, il y a un des compositeurs de Génération qui travaille sur une série suisse, Quartier des Banques. Je ne peux pas dire le budget, mais c'est plus que ce que tu dis. Okay. Voilà.
Et toi, Jocelyn, pour Bref ?
Alors, ça dépend si on parle de cession de droits d'exploitation à la série pour qu'elle puisse du coup utiliser le titre, ou si on parle des revenus SACEM liés directement à.
On peut parler des deux volets puisque on ne sait jamais la réussite ou non d'une série, notamment par exemple pour Bref qui était vraiment un nouveau format.
Ouais. Alors pour Bref, nous ça a été un petit peu particulier comme personne savait que ça allait fonctionner à ce point-là et surtout comme je le disais, on n'avait pas d'éditeur avec David à l'époque. Nous on était juste super content de faire la série et puis que ça se retrouve en prime time sur Canal. Bon, c'était juste énorme pour nous. Il faut savoir qu'on n'a jamais vendu un morceau à Bref. C'était juste zéro, ils ont dépensé zéro. Mais par contre, on s'y est bien retrouvé effectivement au niveau de la SACEM. On a dû toucher pas loin de 35-40 000 euros chacun, je pense, mais juste sur l'exploitation, juste sur les droits SACEM, quoi, pour les ayants droit. Quoi.
En plus, ils ont été corrects puisqu'ils ont remis une enveloppe par la suite pour vous aider.
Ouais, ils ont remis une enveloppe après, c'est parce qu'on avait un projet de clip. Et puis, en gros, ils nous ont dit ça ne sera pas un souci. Voilà, mais c'était plus un accord oral que vraiment quelque chose sur un contrat d'écrit, quoi. C'était juste parce que ça avait marché et ils trouvaient ça sympa de nous remercier, quoi. Donc c'était cool.
Ça a joué sur les ventes digitales. Est-ce que vous avez vendu des singles? Alors, je connaissais un artiste en Bretagne qui avait mis un morceau en synchro sur la série Numbers. Et quand elle passait dans différents pays, il savait que... À ce moment-là, ça s'était joué au Mexique parce qu'il avait plein de ventes dans la nuit de ce titre-là au Mexique qu'il avait joué 15 secondes à la fin. Est-ce que pour vous, c'est un peu la même chose? Est-ce que vous avez vendu des singles ou des morceaux?
Ouais, je pense qu'en tout cas, il y a quelques morceaux qui étaient issus, par exemple, de notre EP comme Kidding ou celui qu'on a co-composé avec Yann Kojandi, qui a été un peu celui de la emblématique de la série. Donc là, évidemment, ça a plutôt bien marché. Mais j'ai envie de rebondir un petit peu sur autre chose. Tu disais tout à l'heure, tiens, c'est marrant, faire de la musique pour une pub ou une série, est-ce qu'on n'associe pas aussi le nom de son groupe à ça, etc. Nous, quelque part, bref, ça a été une aventure vraiment extraordinaire. C'était vraiment génial. Mais il y a quand même un moment, pendant qu'on tournait en France, essentiellement en France, parfois il y a un programmateur ou deux qui nous appelait en nous disant « Tiens, est-ce que Kian Kojandi est dans le camion ?» Enfin, tu vois, on était très, très, très rattachés à la série. Et quand on a sorti notre album, je pense que c'était peut-être 6 mois ou 1 an après la série, on a fait le choix avec David de mettre aucun morceau de Bref, de faire un album qui n'avait rien à voir. Qui n'a pas eu forcément, entre guillemets, le succès que nous, on escomptait avec l'engouement qu'il y avait autour de la série. Mais nous, on avait besoin aussi de faire une vraie cassure par rapport à ça, parce que c'était ça tout le temps, quoi. Et finalement, le projet, je pense qu'on est en stand-by depuis 5-6 ans. On commence juste à refaire des prods en ce moment, etc. Mais... on a eu beaucoup de mal à se détacher de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on démarchait, c'est même arrivé que des majors nous démarchent, c'était on veut faire du son bref.
Entendu donc, à la télé.
Pas forcément envie de faire ça tout le temps. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Avec ton album vu à la télé. Bon, voilà. Après, peut-être avec le recul qu'on n'a pas eu la bonne stratégie, mais on a été au bout de nos convictions, en tout cas.
Mamie-Tiane, on va parler un peu des spectacles jeunes publics. Parce que c'est aussi une autre facette pour les artistes. Vous pouvez aujourd'hui créer pour des enfants, pour des adolescents. Comment est venue cette démarche de composer pour un public plus jeune plutôt qu'un public adulte?
Alors, j'ai jamais pensé pour le jeune public. J'ai jamais composé pour le jeune public, pour les spectacles, pour les enfants. En fait, j'ai commencé un groupe de rock, punk rock. Et un peu, c'était un peu dehors de rock, entre guillemets, traditionnel. Et bien, du coup, on m'a proposé, est-ce que vous ne voulez pas faire pour les enfants? Mais j'ai dit, mais le son qui est très, très fort. Mais c'est le premier essai. C'était un légende de Troupe de Rennes, l'Antipode, qui m'a proposé de... On peut, première fois, essayer de faire pour le jeune public un vrai situation rock avec enceinte, énorme enceinte et sur scène et tout ça. Et puis, vous ne changez rien et puis on va voir.
C'était avec l'Armada Production?
Ce n'était pas encore l'Armada qui n'était pas encore. Il était tout petit personne. Et juste, c'est l'équipe de Antipode qui m'a proposé ça. Et puis, mais pourquoi pas? Si on ne change pas, moi, je veux bien essayer. Donc, on a fait un premier concert. C'était une grande scène, comme un grand requin, quoi. On était sur scène, je crois que 5. Un guitare, basse, batterie, tout est complet. Puis, énorme enceinte. Ça, on a commencé le premier morceau. Alors, ils ont filé. Alors, je voyais un truc qui est un pluie qui tombe dans l'air. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, les enfants, à partir du temps quand même, des enfants qui a mis des bouchons à l'oreille. Hein. Alors, ils ont tout balancé en l'air. Ça a fait des pluies énormes. Et puis, ça marche. Et là, toute la durée du concert, c'était vraiment les enfants qui ont basculé à droite, à gauche. Mais entre eux, ils ont retiré, il est tombé, tu vois, ils sont gentils. Il
essayait
de défendre entre eux, pas de danger. Donc, c'était un vrai concert de rock très agréable, quoi. Et là, il y a des enfants qui commencent de me tirer. Ouais, il y a des gardiens qui sortent. C'était vraiment formidable.
Jocelyn est jaloux là d'un coup. Il n'a jamais eu ça en concert.
C'est vrai que c'est un très très bon public, les enfants.
Voilà, donc on a commencé bas, ça marche. Et puis on n'a rien changé depuis. Et puis on a continué un peu partout de concert. À cette époque-là, je crois qu'il y a déjà 15 ans. Donc, il n'y avait pas un concert de rock pour les enfants. Il y a très peu de choses pour les enfants, en fait. Musique alternative, tu vois, c'était, entre guillemets, un peu gnon-gnon. Salopette, avec les accordions, tout ça, je pense. Je ne connaissais pas ce monde-là. Mais donc, moi, je connais même pas maintenant. Je ne connais pas les autres groupes qui font pour les enfants, je ne sais pas quoi. Là, on a commencé, on a fait un petit tournée, on a fait une colonie de vacances et tout ça, aussi CCAS. Et là, je suis un peu calmée parce que j'en ai marre un peu rock, parce que je suis vieillie, et puis j'ai pas envie de voyager tout le temps et tout ça. Donc, j'ai commencé de me dire un petit spectacle pour les plus petits. Mais encore une fois, j'ai pas de tout pensé pour composer pour les petits. C'est le geste mon naturel qui fait un peu je veux calmer. Donc, je lance une composition un peu plus calme. Et en même temps, j'ai créé un spectacle. Qu'est-ce que je peux faire avec ce morceau-là si je veux être sur scène? Et là, c'est naturellement, c'est devenu j'ai créé un petit cocon sur scène. Mais du coup, ça marche pour les enfants. Mais du coup, depuis, je n'ai pas fait pour adultes. Mais ça marche pour adultes. Toujours, ça marche pour adultes. Mais, niveau d'organisation, c'est mieux de proposer pour les petits à l'école. Voilà.
Donc, c'est des formats du coup plus courts, c'est des concerts. Est-ce que les enfants peuvent rester une heure ou 40 minutes, 50 minutes ou c'est...
Pour le concert, pour le Mami Chamband, il s'appelait Mami Chamband pour le rock, ça c'était à une heure et demie de concert, il y a des rappels et tout ça. Et la petite formule, ça va être à 40 minutes, 45 minutes. Sinon, c'est juste avant, je faisais aussi la musique électronique, aussi un peu plus avec le visuel, pas 3D, mais un peu visuel très... un peu jeu de vidéo, gros truc aussi. Ça, c'était 50 minutes, quelque chose comme ça. Donc, je crois que c'est plus ou moins une heure maximum. Mais plus en plus petit, j'ai créé une demi-heure. Et maintenant, je fais des spectacles pour les 0 à 3, 4 ans. Ça fait 25 minutes maximum.
C'est pour la vente de ce spectacle, c'est le même principe qu'une vente d'un spectacle pour adultes, ou est-ce que c'est une démarche d'atelier de... Comment ça se déroule pour ce...
Ça dépend. Le concert et c'est l'école. C'est l'école qui groupe. Et puis donc, concert, je ne vais pas à l'école pour jouer. Je vais pas... C'est plusieurs classes de régions, de communautés qui s'organisent de venir de voir un spectacle. Donc, ça fait des fois 200 personnes, des fois ciné-concert. Je fais ciné-concert aussi pour les bébés. Ça fait 500 personnes. Des fois, beaucoup plus petit, 60 personnes. Donc, vraiment varié.
Et c'est des cachets d'artistes ou c'est...
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Je suis atteint de mettre un spectacle, un petit cachet, c'est pas comme vous, mais je fais beaucoup de pubs aussi à côté. Donc ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc, c'est plus vraiment pour mon plaisir, pure création, je peux le mettre pour les enfants. Mais pas pour les enfants. Je n'ai pas de tomber de faire un spectacle pour les enfants parce que je ne sais pas ce que c'est.
Mais est-ce que néanmoins, ça a changé votre façon de créer? Est-ce que du coup, il y a des choses aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, vous dites, bah, ça, je ne vais peut-être pas le mettre comme ça ou... Parce que ce n'est pas pour les enfants, mais est-ce que du coup, on s'habitue à avoir un public peut-être plus fragile sur les volumes ou
Volume, peut-être, oui. Mais niveau de composition, attitude, quelque chose... je crois qu'il ne faut pas changer. Il faut pas changer. Vraiment, il faut montrer ce que moi-même. Et voilà, ça marche. Et ça touche. Et puis, en fait... En parlant, je réfléchis. Hein. Je crois que création, si c'est honnête, c'est moi-même. Et ça touche à tout le monde, tous les âges. Ce n'est pas juste pour les enfants. C'est les enfants qui sont ouverts. On dit ça toujours, ils sont géniaux. Ça. Non, ce n'est pas vrai. Je crois que c'est adulte qui connaît, qui n'a pas oublié de la tête de grand enfant, on peut se comprendre toutes les émotions. Je ne sais pas. Par exemple, là, je pense toujours à une image de dessin animé, un train qui part, et puis maman qui est dedans, et puis petit enfant qui dit au revoir, au revoir, et puis il pleure en courant. Là, ça me fait très envie de pleurer cette émotion-là. Je crois qu'on peut toujours partager. C'est triste, mais en même temps, c'est pas juste triste, quelque chose de, c'est pas mélancolie. Ça, dans le spectacle pour les enfants, il y a cette émotion-là. Un peu, je cherche aussi. Parce que tout le monde touche, tout le monde, comme Totoro. Totoro, en fait, d'un cœur, on fait électro, les rock, punk, tout le monde un peu différent. Mais quand tu vois des Totoro, et tout le monde, waouh, c'est un truc comme ça. Je crois que dans le spectacle pour les enfants, il y a ça. Il y a quelque chose de profond qui touche à tout le monde.
L'universalité des sentiments, en fait, c'est...
Ouais.
Et est-ce que du coup d'avoir un public un peu désinhibé, en général dans les publics de rock, c'est souvent l'alcool ou la drogue qui les fait que le public est désinhibé. Là, les enfants aussi qu'ils n'ont pas de filtre. Est-ce que c'est une, du coup, c'est quoi le rapport avec, est-ce qu'ils veulent monter sur scène? Est-ce qu'ils comprennent un petit peu la démarche entre l'artiste et puis le public? Comment on met des frontières? Comment on met des limites en tant qu'artiste? Si on en met d'ailleurs.
Ah ouais, j'ai pas... Mais c'est vrai qu'il ne faut pas toucher les instruments, tout ça, on fait des barrières. Mais c'est pareil, hein. Je crois que c'est des adultes. Il y a des gens qui viennent sur scène, et puis on fait monter sur scène, on danse, et puis des enfants qui veulent sortir. Et puis on peut laisser peut-être, s'il n'y a pas danger, on peut laisser. Parce que c'est l'émotion qui ne peut pas empêcher de faire non. On partage maximum, donc il n'y a pas de différence, je pense. Mais les bébés, en fait, j'ai jamais fait pour un bébé, vraiment bébé, hein, des transats, il vient, il est avec ses parents. Je ne sais pas, je savais pas comment ça va se passer. En fait, ils sont comme ça, comme un zombie, très gentil, zombie comme ça. Et puis, avant, il a pleuré. Comment ça va se passer? Et puis, dès que j'ai commencé, il était scotché. Jusqu'au donc, je crois que c'est quelque chose qui peut faire une vibration ou de émotion. Même bébé qui prend l'émotion.
Alors vous disiez, vous faites de la pub également pour vivre, mais est-ce que du coup un artiste peut vivre de la création jeune public? Est-ce qu'aujourd'hui, si un artiste en émergence veut du coup, attendre pour que son projet explose, par exemple? Est-ce qu'il peut vivre avec des projets jeunes publics?
Grâce à intermittent de statut, intermittent de spectacle, il n'y a pas d'autres pays comme statut. Hein. Au Japon, il n'y a pas, donc on ne peut pas vivre, mais ça peut permettre de vivre en tant qu'intermittent de spectacle, pas... Mais ça va, quoi. Ça va très bien. Et puis, on peut faire des créations tranquilles. Hein.
Là, c'est quoi le projet qui est en cours? Il y a une nouveauté?
Ça, c'est une nouveauté. Donc, ça, c'était une nouveauté. C'est la 0 à 4 ans. C'est, j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Donc, mais ça demande beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de parents. Un peu la mode des parents qui veulent amener des petits, tout petits. J'ai eu un petit bébé, puis j'ai envie de d'éduquer depuis des zéros, quoi. Donc, il y a beaucoup de demandes de 0 à 3 ans. Et voilà, donc ça marche très bien.
Et donc là, vous êtes booké par l'Armada aujourd'hui?
Oui, ça fait plus que 10 ans que je travaille avec.
On peut revenir Vous pouvez nous parler un petit peu de l'Armada ou un peu sur l'histoire? Je sais que, par exemple, nous, on a un groupe en local qui s'appelle Turnstech, qui a fait également qui fait de la musique électronique, qui travaille également très régulièrement avec des scolaires, avec des petits aussi. C'est quoi le projet de l'Armada, en fait? C'est de proposer des...
C'est plutôt ces musiques dans la musique actuelle. Donc, ils cherchent des salles plutôt alternatives, pas des théâtres, genre de trucs. Donc, ils proposent un peu, ils cherchent la musique actuelle, alternative, électro. Ils cherchent plus ou moins. Maintenant, c'est beaucoup d'électro et tout ça. Moi, je suis le plus vieux, musicienne. Donc, je suis devenue un peu tranquille. Je fais tout ce que je veux. Les classiques, quoi, parce que moi, je suis formation comme classique. Donc, je propose. Donc, dernier, celui d'avant, j'ai proposé carrément de faire un classique. Le piano, partition, le Chopin, Mozart et tout ça. Je joue du piano. Et à côté, il y a un guitariste noise qui joue un noise à la un peu sonicus. Quoi. Donc, j'ai proposé ça. Et les autres groupes de l'Armada, c'est, je trouve, les hip-hop et des électro et des beaucoup plus musique actuelle. Voilà.
Alors, d'un point de vue radio, en fait, l'Armada aussi, ce que nous, on le diffuse à la radio, il propose une émission pour le jeune public qui s'appelle Mercredi. Donc, vous pouvez aller jeter une oreille sur le site internet de l'Armada.
Justement, j'ai amené quelque chose pour vous. En fait, mon ami Mercredi Instica. Et puis, il y a une radio qui s'appelle Radio Minus, je crois.
Oui, Radio Minus, ouais, c'est ça.
Vous connaissez? Oui. Alors, c'est un ami. Moi, on faisait des spectacles pour les enfants électro. Donc, il choisit des morceaux, plein de morceaux en vinyle, très rares. Et il est collectionneur de vinyle, mais il cherche plus ou moins pour les enfants. Pour les enfants, donc c'est très intéressant d'écouter. Je vais sortir plus tard, il y a des sous-titres. Il s'appelle Radio Minus.
Et là, sur les productions qui viennent de sortir, il y a Born Bad qui a sorti une compilation en fait, de musique pour enfants des années 70, je crois que ça s'appelle Chevrance.
Ouais, si c'est pas de super, bêtises. Super disque.
Et là, on se rend compte qu'en fait, on est obligé de faire les choses gnangnang pour les enfants. On va faire tourner un micro dans la salle si vous avez des questions. Je vais vous passer le mien. Quelqu'un a une question? Pas de question? Des artistes qui veulent se lancer dans la production pour les enfants ou dans la synchro? Ouais.
Bonjour. Donc moi, du coup, j'ai une question un petit peu plus technique. C'est par rapport au niveau des droits. Quand on cède une musique, par exemple pour une pub, ou comment ça se passe? C'est droit d'auteur, droit voisin, comment on négocie? Est-ce qu'il faut forcément quelques connaissances juridiques? Ou c'est en fonction du deal, quoi?
Je réponds. Ouais, je sais pas. Déjà, il faut différencier un peu tous ces droits-là, parce que c'est sûr que les droits d'auteur ou les droits voisins, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes personnes, enfin, ou sociétés qui les récupèrent. Alors attends, je vais essayer de répondre de manière à peu près concrète. Mais en gros, si tu n'as pas d'éditeur, tu es de toute façon 100% détenteur de tes droits, voilà, de tes droits de composition, etc. Par contre, tout ce qui est droits voisins, etc., ça va aller plutôt à ton label ou à celui qui a produit le morceau. Si c'est toi qui l'a produit, dans ce cas-là, vaut mieux. Alors, je sais pas. Après, il faut voir. Hein, tout est. Faut y réfléchir, mais il vaut peut-être. Ça peut peut-être valoir le coup de monter une petite association, une société, pour pouvoir récupérer aussi les droits voisins. Après, bon, les droits voisins, c'est un peu moins. En général, un peu moins gros quand même que les. Mais bon. De toute façon, ils sont collectés à un moment, donc il y a quand même de l'argent quelque part à récupérer, quoi, forcément. Mais non, ce qui est important, en tout cas, en tant qu'artiste, c'est de céder de l'exploitation de ton œuvre et d'être sûr que, surtout, tout ce qui est Q-sheets, ce qu'on appelle les Q-sheets, soit rempli à chaque fois qu'il y a une diffusion, etc., quoi. Mais c'est là aussi que dans le game, il y a les éditeurs qui rentrent en jeu, parce que pour nous, c'est très compliqué d'aller voir que ta musique allait passer entre 1 minute 02 et 1 minute 012. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est sûr, en France, hein, je suis sociétaire à la SACEM, évidemment, mais voilà, c'est super important de déposer le morceau à la SACEM pour en tout cas déjà avoir... avoir ces droits-là. En général, sur une pub aussi, de toute façon, ils te proposeront forcément, en général, un prix pour l'exploitation de l'œuvre, tu vois. Donc, en général, pour une petite pub locale ou un petit truc, ça se deal entre 500 et 1000 euros pour un petit truc. Après, pour des trucs un peu plus gros, bon, là, c'est toujours cool quand même de passer un petit coup de fil à quelqu'un pour avoir un peu une idée, quoi. Mais bon, logiquement, c'est vrai que c'est plutôt le travail de l'éditeur, etc., quoi. Mais on n'est pas à l'abri, hein. Moi, j'ai un label qui s'appelle Bon Temps Records, où je produis pas mal d'artistes, et ça arrive des fois d'avoir des propositions de pub pour je sais pas où dans le monde, mais pour une petite boîte, pour un truc. En général, ces trucs-là, on les vend 600 euros, on les vend à peu près, si tu veux.
Parce que je me posais justement la question par rapport à la musique électronique. C'est vrai que c'est à quel moment le sampling, à quel moment ça arrête vraiment la propriété intellectuelle sur la musique électronique. Est-ce qu'on peut par exemple utiliser un sample et se rendre compte qu'on perd tous ses droits derrière? Bon, par exemple, on l'a vendu pour une pub, on se rend compte qu'on a samplé 30 secondes d'un morceau. Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors ça, évidemment, il faut y faire attention. Alors tout dépend de l'endroit où tu prends ton sample et également du contrat que tu as avec la librairie son, tu vois. Parce que si tu l'as acheté et que dans le contrat de ta licence, c'est marqué que tu as le droit d'utiliser le sample comme tu veux, tant que tu as la preuve d'achat, a priori, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut être vigilant, parce qu'il y a des librairies de sons, évidemment, qui mettent plein de samples à disposition. Par contre, ils ne sont pas libres de droit. Et d'ailleurs, tu as pas mal de trucs comme ça quand tu signes un contrat avec un label, etc., où ils te disent « Attention, est-ce que vous êtes bien détenteur de tous les droits ?» etc., etc. Donc, il faut être un petit peu vigilant. Alors après, très entre nous, si c'est un sample de Caisse Claire de chez Vengeance, ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention. Bon, voilà. J'ai jamais eu trop vent de problèmes de ça, mais bon, j'imagine qu'il y a des gens aussi dans ce genre de société qui font attention à ça. Donc, faut faire un peu attention. Et puis, bon, après, ça dépend ce qu'on fait comme musique, mais surtout, essayer de faire ses samples soi-même. En fait, comme ça, t'es pas embêté. C'est pas mal.
Et tu nous parlais tout à l'heure, avant la conférence, de comment on fait pour vérifier, notamment auprès de la SACEM, puisqu'ils t'ont retrouvé un reliquat d'argent qu'ils vous auraient dû vous donner. Comment, quand on est indépendant, comment on fait pour justement les questionner, la SACEM, aller questionner d'autres collecteurs comme ça?
Nous, ça nous est arrivé de le faire avec David quand on n'avait personne à la gestion éditoriale, de passer des heures au téléphone avec la SACEM en leur disant est-ce que vous avez bien vu ça? Est-ce que à pointer avec eux les diffusions, les jours des diffusions et le minutage, quoi. Mais même en faisant ça, c'est vraiment un travail d'acharné, c'est un travail de fourmi, vraiment.
C'est voilà, nous quand on a pris quelqu'un à la gestion éditoriale, c'est quelqu'un qui a fait ça, je pense, pendant 2 mois quasiment non-stop pour aller juste chercher l'argent, mais parce qu'on est vraiment sur des de 1 minute 12 à 1 minute 17, et puis en fait ils n'avaient pas déclaré de 1 minute 21 à 1 minute 23, donc c'est vraiment à chaque fois des toutes petites sommes, mais tout ça mis bout à bout, finalement on arrive toujours à quelque chose. Mais il faut faire attention, hein, évidemment, hein, parce que bon, la SACEM, je pense que c'est peut-être une des sociétés les plus enfin qui elle redistribue pas toujours tout l'argent, mais aussi parce qu'elle ne sait pas forcément des fois à qui ça va. Donc il faut faire attention au général aussi avec les boîtes de production avec lesquelles vous travaillez, etc. Ce qui est important, c'est qu'ils remplissent bien les cue sheets, ce qu'on appelle les cue sheets. C'est ça qui est très important. Parce que c'est ça qui va pouvoir... je perds mes mots. Mais voilà, qui va pouvoir déclencher le paiement par la SACEM. Ouais.
Ouais, justement, ouais, Yves.
Moi, je voulais juste ajouter à ta... La réponse, c'est que tu peux aussi contacter la SACEM qui va te donner des exemples types de contrats et qui va te conseiller gratuitement. Parce que les droits, c'est... Enfin, je ne sais pas toi, mais nous, ça fait un bout de temps qu'on est dedans. On n'a pas encore tout compris. Hein. Ce n'est pas facile. Il y a vraiment beaucoup de droits différents. Et parfois, dans un contrat, ils tournent les phrases de telle manière que tu ne peux rien. Enfin, c'est très compliqué. Là, je viens de faire un court-métrage pour Paris où j'ai pas été payé, donc j'ai accepté de faire 20 minutes quand même de musique sur un court-métrage de 30 minutes où il n'y avait pas de budget, mais je l'ai fait parce que le court-métrage est génial. Et c'est vraiment, je suis devenu copain avec le producteur. Eh bien, c'est aujourd'hui matin que, enfin, après un mois de négociation d'aller-retour du contrat, on a réussi à se mettre d'accord alors que j'ai travaillé gratos. Donc il faut vraiment se faire aider, quoi. Franchement, voilà.
Ah oui, puis pour étayer un tout petit peu là-dessus, il faut être vigilant aussi. Bon, là, c'est pas le, on n'est pas censé parler forcément des contrats, etc. Mais dans un contrat d'artiste aussi, ou une licence d'artiste, etc., il faut faire aussi attention à tout ce qui est les droits d'utilisation secondaire de ta musique. Parce que souvent, tu verras tout de suite que tous les droits un peu de commercial, etc., ça, il n'y aura pas de souci, ça sera toujours noir sur blanc. Si c'est un vinyle, tu auras 15%. Si c'est en digital, en général, tu as 50%, ça dépend avec qui tu deals. Mais l'utilisation secondaire, c'est justement ça. C'est que si un jour, il y a un publiciste qui est intéressé par ton morceau, il faut aussi que tu sois sûr d'avoir un bon, un truc pas trop déconnant quand même sur les tours. En général, on est sur du 70-30 ou des choses comme ça. Mais voilà, il faut faire attention à ça aussi. Ouais. Comme toujours, hein, c'est vrai que c'est compliqué. Hein.
Yves, vous, avec General Score, vous avez des outils pour pouvoir un peu traquer les morceaux qui sont utilisés dont vous n'avez pas forcément l'information. Est-ce que vous utilisez... Je sais qu'il existe des sites internet aujourd'hui où on peut savoir que ce morceau a été joué par telle radio ou par telle télé.
Ouais, ça nous arrive d'utiliser ce genre d'outils, oui. Alors, c'est plus facile... quand il s'agit d'une série où il y a des morceaux qui reviennent, par exemple un générique. Enfin, donc si le générique a été joué quelque part, donc ça veut dire que la série a été diffusée, probablement que tous les épisodes de la série ont été diffusés, donc ça devient assez intéressant. Mais s'il faut traquer chaque morceau, ça coûte vraiment assez cher, quoi. Donc ça, c'est plus compliqué. On espère toujours que la SABAM, qui par ailleurs, on a d'excellents rapports avec la SABAM, mais voilà, on espère toujours que la SABAM fasse son travail le mieux possible. Parfois, on est un petit peu... Voilà. C'est diffusé hein, à la radio, hein. Je dois faire attention à ce que je dis. Parfois, parfois on est un peu déçu, on voudrait plus de réactivité, quoi. Donc effectivement, il faudrait qu'on développe plus, mais bon, on a vraiment développé beaucoup de choses, on fait de la production exécutive aussi. Enfin, donc on se rend compte à quel point il y a énormément de métiers qui tournent autour de ça, la synchro, énormément. Que ce soit dans le monde du cinéma ou de la musique synchronisée, pour le théâtre ou pour le jeu vidéo, on est moins au fait, mais voilà, on se rend compte que c'est incroyable. Ça va du copiste au musicien qui joue en direct, mais même le musicien qui joue en direct, si vous l'engagez, il a des droits, ce qu'on appelle les droits d'interprétation. Et donc il faut dealer ça aussi avec le musicien. Vous vous engagez un musicien et un producteur vous dit j'ai envie que tu composes, j'ai envie de mettre du violon sur la compo. Le producteur dit c'est génial, voilà ton budget, génial, je vais pouvoir payer le musicien. Ah ouais, mais il ne faut pas oublier que le musicien, il a aussi des droits, et si ça ne figure pas dans le contrat, le producteur va se retourner contre vous parce que c'est vous qui gérez le contrat avec le musicien. Si jamais le musicien un jour dit et alors, et mes droits, j'ai pas permis que mon interprétation se retrouve sur ce film. Et donc, il faut faire vraiment, vraiment gaffe. C'est pas facile.
Je pensais par exemple au reportage d'actualité. Alors, nous, par exemple, sur M6, il y a souvent, je sais pas si vous regardez 66 minutes, ils utilisent plein de fois des morceaux de groupe, juste, je sais pas, 10 secondes. Et à chaque fois, j'essaie de les repérer. Ça, ils ne font pas une demande. Ils l'utilisent dans leur montage.
En principe, une cue sheet, quelle que soit la synchro, quelle que soit l'émission, peu importe, enfin, télévision, cinéma, ça doit être exact. C'est-à-dire avec le point d'entrée et sortie du voilà la production le compositeur enfin l'auteur le détenteur de droits, tout ça doit figurer dans la cue sheet qui est remise à la SACEM ou à la SAMAM. C'est la base, mais c'est pas facile hein. Parfois on doit le faire nous-mêmes. Souvent le producteur nous dit bah fais la cue sheet, ou l'éditeur, ce qui en principe c'est son boulot, l'éditeur. Mais bon, voilà.
Quel conseil vous donneriez à un artiste en émergence qui veut se lancer dans la synchro?
Travailler énormément.
Sur sa musique ou sur tout ce qu'il y a autour?
Sur tout. Travailler énormément sur la musique et sur le réseau. Travailler sur le réseau, ça c'est... Parce qu'on peut faire de la formidable musique chez soi, quoi. Être joué, mais simplement être joué, quoi. Je connais des compositeurs qui sont extraordinaires, très très bons compositeurs, mais que les réalisateurs n'engagent pas parce que ils n'ont pas le réseau. Enfin, c'est très étrange. Donc oui, travailler beaucoup, mais il faut le réseau. Moi, je dirais vraiment 50-50. Ce qui est très compliqué quand on est... Enfin, en tout cas, moi, j'ai la sensation que c'est très compliqué parce que quand on est artiste, on est là pour artister, pour inventer un mot. On n'est pas là pour commencer à se vendre, en principe, quoi. Donc, on perd beaucoup de temps, je trouve, à ça, mais c'est indispensable, vraiment.
Il faut être sinon bien entouré, avoir des gens autour de soi.
Il faut rencontrer des gens, il faut venir faire des débats, il faut... Il faut aller au spectacle, il faut rencontrer les gens dans le cinéma, il faut aller au festival, il faut participer à fond, voilà.
Ouais. Ensuite, c'est un petit milieu, les gens s'appellent régulièrement, c'est comment? Parce que c'est vrai que nous, d'un point de vue musique actuelle, c'est vraiment un milieu que je connais pas du tout, quoi.
Bah, c'est un petit milieu, mais pas si petit que ça, je pense, parce que en fait, je connais pas un compositeur qui veut pas faire du film. Enfin, je connais pas un compositeur. À qui on dit tu veux pas faire mon court métrage, qui va dire non. Enfin, tout le monde veut faire ça, c'est génial. Donc en fin de compte, je crois pas que ce soit un si petit milieu. Ouais.
Et ce que Jocelyn disait tout à l'heure, c'est pas forcément l'envie, c'est aussi la façon de travailler rapidement, travailler avec les codes peut-être du montage. C'est ça qu'il faut acquérir.
C'est clair qu'on apprend. Et puis c'est clair qu'on apprend à travailler vite. Ouais, tu disais tout à l'heure, je me suis retrouvé dans ce que tu disais, oui, parfois ça nous prenait un an pour faire un morceau et tout. Ben oui, c'est vrai, quand on compose, on lance plusieurs choses à la fois, il y en a une qu'on laisse en plan, on la reprend 2 mois plus tard, ça mûrit, enfin, voilà. Et puis là, ben non, c'est pas du tout comme ça, hein. C'est allô, tu sais me faire une musique pour hier? Ben, si c'est pour avant-hier, c'est mieux, hein, mais si pour hier, c'est bien. Ben, ok, je vais passer la nuit. Il faut aller très très vite, donc il faut apprendre à travailler vite aussi. Ce qui est très compliqué en fait, parce que c'est toujours plus facile d'avoir un projet. Donc si quelqu'un vous donne un scénario, fait de la musique dessus, vous avez un projet. Mais si vous voulez vous lancer dans la musique de film, que vous n'avez pas de scénario, pas de film, pas de contact, c'est compliqué de... Je dois faire quoi voilà.
Dans la salle. Oui, j'allais dire, de toute façon, juste en tant qu'artiste, que vous fassiez n'importe quoi, de toute façon, comme le disait Yves, hein, c'est Yves, il faut vous faire connaître. Donc, de toute façon, ça passe par du live, ça passe par de la prose, ça peut passer par plein de choses, par de l'action culturelle. Moi, il y a peu de taf, entre guillemets, que j'ai refusé en tant qu'artiste, quoi, sauf quand vraiment ça ne m'allait pas. Mais je pense que c'est un peu tout ce panel-là qui m'a fait rencontrer des gens qui m'ont permis de faire ça. Mais bref, c'était presque un accident, hein, finalement.
Il y a les concours aussi. Les concours pour la musique de film, il y a plein de concours. Et puis faire un site internet aussi. Se faire un site internet.
Mamie, tout à l'heure, vous parliez de la composition également. Il y avait une question dans la... Non ?
Est-ce que ça vous arrive parfois, quand vous faites une musique pour une pub ou pour un film, qu'on vous fasse une commande et qu'à la dernière minute, on vous dise « Bah non, finalement, on ne garde pas votre musique ». Est-ce que vous êtes payé quand même pour le travail ou pas du tout ?
Je vais répondre. Bah, oui, ça arrive. Et là, ça arrive. Ça arrive même des fois que tu aies des accroches. J'en ai eu une il n'y a pas très très longtemps, ce que je disais à Brian, avec American Apparel, qui avait sélectionné un morceau issu d'un EP, etc. Donc, super. Je suis un petit peu la discussion, tu vois. Et je rebalance du coup l'info à mon éditeur. Et puis, c'est l'éditeur qui a... mon éditeur pour cette EP-là qui a dealé du coup avec American Apparel, et il se trouve que le deal n'a pas eu lieu, mais aussi parce que peut-être, j'en sais rien, hein, je suis pas dans toutes les discussions, mais peut-être qu'il a demandé un peu trop par rapport à, je ne sais pas, tu vois. Mais ce que je disais à Brian, c'est que si moi j'avais été au cœur de cette discussion-là, finalement ça aurait pas été très grave si je lâchais le morceau un peu moins, tu vois, pour que ça puisse être diffusé, etc. Là, pour le coup, j'ai reçu le montage de American Apparel avec le morceau dessus, et puis finalement, ils ont pris autre chose deux ou trois semaines avant, tu vois. Donc, on n'est jamais trop sûr, quoi. Après, il faut verrouiller, hein, c'est super important. Il faut verrouiller avec des contrats rapidement, etc., au plus vite, mais...
Mais est-ce que c'est possible que vous travaillez sur une musique et qu'à la dernière minute, on vous dise bah non, en fait, on ne la prend pas, quoi. Parce que là, dans votre exemple, la musique existait déjà, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais est-ce que ça vous arrive de. On vous dit, ouais, on a besoin de composer, d'avoir. On a besoin de trois morceaux, vous bossez dessus, genre, je sais pas, plusieurs jours, et qu'à la fin, on vous dise bah non, finalement, on ne prend pas, quoi. Est-ce que vous êtes quand même payé pour le travail que vous avez fait, du coup ou...
Bah, pour le coup, ça ne m'est jamais vraiment trop arrivé. Donc je peux pas vraiment te répondre, mais Yves, peut-être, c'était déjà arrivé.
Moi, ça m'est déjà arrivé de négocier des contrats. Comme le producteur n'avait pas de certitude par rapport à moi, puisque je n'étais pas connu, de négocier un contrat où je suis payé à la semaine.
Donc c'est possible du coup de dire, ok, c'est moi je travaille,
mais je veux avoir une avance. Ouais, je veux bien travailler pour vous, mais il faut que je paye mes factures. Donc puisque vous n'êtes pas sûr de garder ma musique, payez-moi à la semaine. Et puis, bah, comme ça, après une semaine, vous pouvez me virer, ou deux semaines, ou trois semaines. Voilà. Donc ça, oui, ça se négocie.
Et donc, c'est un contrat en particulier ou...
bah, dans ton contrat, tu dis, voilà, je voudrais bien être payé autant pour les heures que je vais passer là, pour vous fournir quatre morceaux à la fin de la semaine, dans tel ou tel style, voilà, pour telle ou telle scène. Et, mais bon, c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir... Alors là, on parle quand même de... là, on parle d'un film avec un gros budget. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi, un agent, voire un avocat, enfin des gens qui sont vraiment dans le fait et qui vont écrire convenablement le contrat que tu as besoin pour que ça fonctionne, quoi. Après, il y a une question de confiance aussi. Il faut sentir un peu, bon, ça a l'air sérieux, ça, c'est pas sérieux. Enfin voilà, il faut pas travailler pour, faut essayer de pas travailler pour rien, quoi. Ouais. Je pense que tout le monde, et puis je termine, on fait tous des démos dans le monde du cinéma, je pense, vraiment, à moins de s'appeler Bruno Coulet. Hein. On doit faire des démos. Et donc, bah, les démos, tu les fais gratuitement. 4-5 démos, si les gens te disent « Ouais, c'est pas mal, mais... Bah, » il faut retravailler. Mais s'ils te disent « Ouais, c'est génial, on adore !» Il y a quand même peu de chances que tu te fasses virer après. Quoi. Je pense que les gens sont quand même... C'est des gens professionnels qui bossent sur peut-être des équipes pas possibles. Ils font écouter ça à tout le monde. Voilà, si tes démos plaisent, tu ne vas pas te faire virer après. Enfin, je veux dire, c'est quand même... voilà. Après, si ça arrive à tout le monde. Ce qui arrive dans le métier, par contre, c'est que tu mets une musique sur une scène. Moi, ça m'est arrivé de travailler sur un film. Et j'ai le film, j'ai le contrat, tout va bien. Et puis, bah, sur la scène, à la minute 84, c'est déjà un long film, j'ai travaillé pendant 15 jours sur cette scène, je l'adore. Ah puis bah pour finir, oh bah non, on a décidé qu'on va pas mettre de musique. Mais ma musique reste partout ailleurs sur le film. Ah, enfin, tu vois, c'est juste, mais ça, c'est normal. Ou bien ils ont décidé de mettre une chanson. Bon, voilà. Alors c'est cool parce que j'ai fait une musique qui ne leur appartient pas. Donc moi, j'ai quand même bossé, j'ai quand même fini une musique et je pourrais l'utiliser pour autre chose. Donc c'est pas perdu et je suis quand même payé la même chose. Donc ça change pas grand chose. Okay. Mais ça arrive tout le temps. Hein. Okay. Déplacer les musiques, retirer les musiques, écourter les musiques, couper les musiques en deux. Ça, c'est le métier.
Moi, j'ai un petite expérience pour cette question. En fait, il y a des boîtes de synchronisation, donc qu'on est un participe. Et puis eux, ils appellent le soir, par exemple minuit, et pour demain matin, on a besoin de musique pour McDo. Et là, ils appellent plusieurs musiciens, parce qu'il a en boîte plusieurs musiciens. Donc là, nous, on a bossé avec mon copain, comme carotte sur le nez, tu vois. Et puis, on bosse pour le 15 secondes de musique. ce moment-là, donc, il appelle peut-être, je ne sais pas combien de 30 personnes pour demain matin. Donc, on bosse toute la nuit. Et je crois que c'était une participation de son yoga, quelque chose comme ça. Donc, quand même, on lance 2-3 morceaux pour exemplaire, mais s'il n'utilise pas, on gagne quand même de son yoga quelque chose. Mais c'est un système ça, assez courant. Là, donc, si ça marche, donc, comme un peu concours de pub, ça marche toujours, un publicité comme ça, parce qu'il y a beaucoup de références à respecter, tout ça. Mais ça arrive. Mais avant le contrat, c'est comme, comment dire, offre spécial. Et puis, bah, tu touches 150 euros pour une nuit. Donc, ça va. Mais après, s'il utilise, il paye pour la création à 8 000 euros. Après, tu touches pendant des années ou je ne sais pas quoi, à, je sais pas, 20 000 euros, par exemple. Donc, un peu comme l'auto.
D'accord.
Oui, c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Et ce que tu viens de dire, c'est que je pense que travailler dans la synchro, c'est aussi un truc, c'est marathon, quoi. C'est pas un sprint. C'est-à-dire que tu vas commencer à gagner à la SACEM en faisant beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte qu'il y a des rentrées qui sont un peu, qui viennent un peu. Tu as l'impression que ça vient du ciel, mais non, c'est le résultat de ton travail. Et donc, il faut tenir le coup, en fait.
Donc, les rentrées d'argent a posteriori sont plus importantes que ce qu'on va toucher
Non, mais si un film passe, il va être diffusé. Et puis encore. Et si tu as fait, bon, c'est pas mon cas, mais si tu as fait 50 films, ben, forcément, il va y avoir plus de rediffusion. Donc, ta série, elle va. Donc, c'est génial. C'est vraiment super ce que tu as touché à SACEM, mais elle va être diffusée, donc ça.
J'espère
être diffusée dans 5 ans, puis sera, je sais pas où elle est passée, mais admettons, elle va passer au Québec, j'en sais rien. Ouais. Et puis bah, tu vas de nouveau retoucher ça, et là ça commence à être sympa. Quoi.
Alors après, il faut faire aussi attention. Moi, j'ai une autre petite anecdote, c'est que la première année où on a touché de la SACEM sur Bref avec David, alors nous on était sociétaires à la SACEM, mais avec nos petites compos et nos petits groupes du coin, on gagnait 50 euros par répartition. Et puis un jour, on a eu une répartition, c'était plus 5500. Waouh, chacun, on a fait waouh, super. Puis la répartition d'après, c'était bon, bah, plus 7000. Waouh, super, génial. Et le problème, c'est que, en fait, enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est normal, hein, c'est de l'argent qu'on a bien gagné. Hein. De toute façon, travailler du lundi au samedi, on envoyait de 9h à 18h du son, bon, voilà. Mais vous êtes imposable hein, là-dessus, hein. Faites attention à ça, hein, parce que moi, je n'avais pas trop fait attention. Vous êtes imposable là-dessus, et surtout, c'est des revenus qui peuvent être, c'est vrai, assez gros de temps en temps, etc. Mais. Faut s'habituer, mais pas trop non plus. Enfin, moi, j'ai eu des années à la SACEM où j'ai fait du 20 000 euros et l'année après où je faisais 700, en fait. Mais vraiment. Donc, il faut vraiment s'habituer aussi à ça. Et c'est ce qui fait que c'est...
Faut thésauriser.
Ouais.
Faut garder un peu d'argent de côté.
Ouais, faut temporiser. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Ouais,
question d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai vu il y a pas longtemps, je crois que c'était l'an dernier, bref, ils avaient uploadé en fait tous les épisodes sur YouTube. Du coup, comment, est-ce que vous, ça vous fait des revenus supplémentaires, du coup ?
Ouais, ça fait 0,00005 à peu près par clic. très honnêtement, moi, j'ai pas trop vu hein, la numérisation de Bref sur mes décomptes SACEM. C'est pas fou, mais enfin, le truc, c'est que je pense que en Prime sur Canal+, c'était tellement énorme en termes de, je pense qu'on peut pas aller vraiment plus loin. Enfin, sauf. Sauf quand tu fais d'autres trucs pour France Télévisions, etc. Mais sinon, non, moi, je n'ai pas trouvé ça foufou, en tout cas. Après, je ne sais pas à combien sont les clics sur les vidéos. Bref, je n'ai pas trop regardé. Mais je n'ai pas senti de vraie différence, tu vois, entre avant et après, en tout cas.
D'accord.
Voilà. J'ai fait aussi la musique d'une web-série, hein, tout court, qui s'appelle The Swamp. Il y a un truc complètement décalé, etc. Bon, là, c'est une web-série sur YouTube. C'est bon, pas énormément de vues non plus. Donc là, c'est pareil, ça ramène pas grand-chose. Faire attention hein, sur la numérisation, enfin la monétisation via la numérisation, c'est pas encore ultra au point, quoi.
Même Spotify et tous ces trucs-là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le débat en ce moment.
Ouais. Alors si Spotify, Deezer, etc. Ouais, tu peux t'y retrouver un petit peu, mais YouTube, c'est vraiment... C'est vraiment compliqué. Et puis c'est pareil, il faut faire du chiffre, hein, comme disait Brian tout à l'heure. En fait, si tu ne fais pas du 5 millions, c'est... Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment super, en fait. Désolé.
Là, sur la rémunération en fait, de Deezer, en fait, il y a une nouvelle chose qui est parue il y a une journée ou deux. C'est que maintenant, Deezer va vraiment rémunérer les artistes qui ont été joués. Donc, il y aura une répartition plus au pourcentage. Mais vraiment, sur un abonnement, il y a un article qui est sorti ce matin ou hier. Vraiment, sur l'abonnement de 10 euros, par exemple, de Deezer, il y aura les parties qui seront vraiment distribuées aux artistes qui ont été écoutés par l'abonné. Donc c'est un peu une nouvelle chose, et c'est notamment un problème que nous on se rend compte également en radio, notamment en radio associative, où on est 700 radios associatives, on cotise, on est taxé par la SACEM à 5% de nos dépenses, et nous c'est que des artistes en émergence, donc des artistes qui vont passer sur aucune autre radio, sauf quand ils vont exposer, qui vont arriver sur d'autres radios, Virgin, etc. Ben, en fait ils touchent pas l'argent, nous ça nous fait pour nous on est à 6000 euros par an, sur un budget de 100 000 euros, donc nous c'est assez conséquent. Mais par contre, les artistes qu'on aura diffusés, ils n'auront quasiment rien touché. Quoi. Donc c'est un peu compliqué. La répartition des droits, c'est une belle chose, mais c'est très complexe. Et quand on rencontre les gens de la SACEM, pour eux, c'est des petits volumes d'argent, alors que pour nous, c'est des gros volumes, et pour les artistes, c'est des petits volumes. Donc voilà, il y a des échelles, des économies d'échelle qui sont assez compliquées. Là, pour revenir rapidement sur l'histoire des impôts, le conseil, c'est quoi ? C'est de mettre de l'argent de côté pendant 2-3 ans sur ces droits d'auteur, c'est ça, hein ?
Ouais. On va peut-être prendre le micro qui est là-bas.
Juste une petite intervention parce que j'ai eu le coup aussi une année il y a longtemps d'avoir une bonne surprise et ensuite une mauvaise avec les impôts. En fait, il y a un dispositif qui existe sur les droits d'auteur où on peut étaler nos revenus sur 3 ou sur 5 ans. Les droits d'auteur uniquement. Okay. Et une fois qu'on adhère à ce système-là, on peut ensuite revenir à un système normal, mais ça nous permet du coup de... Voilà, de...
Ah bah c'est une bonne info à savoir, ouais. Ok.
D'aplanir. Ouais, bon. Enfin, en tout cas, c'était le cas il y a 20 ans.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Merci beaucoup d'être venu. On vous rappelle qu'il y a encore plein de concerts à aller voir. Hein. N'hésitez pas à aller voir les showcases. Merci Jocelyn, merci Mamie, merci Yves. Alors je ne sais pas où on pourra réécouter ça, peut-être sur le site du Crossroad. Ok, sur le site de Crossroad et sur le site de Haute Fidélité. Merci beaucoup et puis bonne journée et bon festival.